C'est l'histoire intéressante et j'espère que je peux arriver. Mais ce n'est pas juste l'histoire, c'est aussi l'histoire de Dieu et ce qu'il a fait ici en France et aussi partout en Europe, mais aussi dans le monde entier. Donc, un détail, mais vous constatez déjà, je ne suis pas né en France, n'est-ce pas? J'ai un petit accent. Et donc, le gros problème, c'est que je me suis réveillé aujourd'hui à 4h10 pour prendre le train à 5h30. Donc, quand je suis fatigué, je commence à parler un peu plus avec un accent américain. Donc, il y a déjà ce problème-là, donc je vais vraiment m'efforcer. Mais là, parfois, quand je suis un peu fatigué, et ce n'est pas moi qui dis la suite, mais c'est mes enfants qui sont nés en France qui me disent « Oh, papa, quand tu es fatigué, ton français est nul. » Et donc, si je dis ça, bon, normalement, j'arrive à parler français, normalement. Mais si jamais je dis un mot et vous vous dites « Ben, Marc, je ne suis pas né en France non plus, mais là, je n'ai rien compris. » Honnêtement, soit levez la main ou vous faites la suite. Simplement, il faut grimacer. Vous faites « Quoi ?» Et comme ça, je peux repenser dans ma tête le mot que j'ai mal prononcé. Donc là, vous rigolez, mais dans mon âme, je rigole pas trop parce que je sais de quoi je suis capable. Donc bon, voilà. Donc ce matin, on va commencer avec l'origine de la réforme, mais aussi on va toucher un principe sola scriptura. Donc les cinq solas. Ce mot sola, c'est simplement l'idée de seul, unique. Et donc, scriptura, donc la Bible seule. Et pourquoi ça a tellement joué pour la réforme et ce qui s'est passé d'abord en France. Donc, là, pour la première session, là, je vais parler vraiment de la France et comment la France était impliquée dans la réforme. Après, on va voir un texte de la Bible. Et ensuite, je vais vous donner la petite histoire de La Rochelle, dont Albert et sa femme ont fait le tour de La Rochelle. Mais on a fait ça, je crois, on a fait ça dans la nuit, hein, c'est-à-dire c'est fin de l'après-midi, voilà. Mais c'était pas en été, si je me souviens. Donc, je vous invite tous à venir à La Rochelle quand vous voulez. Mais le meilleur moment, c'est à mi-avril jusqu'à fin octobre, parce que ce moment-là, on fait le tour de La Rochelle, tout ce que je vais vous montrer, et à la fin, on visite vraiment l'essentiel. Ernest, meilleur glacier du monde. Et je crois qu'il est protestant quelque part. Non, c'est pas vrai. Mais donc, ça, c'est juste un petit plus que je donne à chacun. Si vous venez à La Rochelle, après, je vais vous donner la meilleure glace sur la planète. Donc, voilà. Donc, l'origine de la réforme. Et un truc spécial pour le... Normalement, ça... j'ai aucune idée. Hein, ça... Ah, d'accord. Ah oui, ça change tout. Hein. Ah, les choses à Paris, vous êtes nettement plus avancés que nous. Ah, ok, d'accord. Ok, voilà. Donc, je commence avec le contexte parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi, vers 1500 et quelques, les choses ont changé en France et en Europe. Et je vais aller assez loin. Donc, je commence avec Dioclétien, l'empereur de l'Empire romain, donc 280 à 305 après Jésus, mais surtout parce que c'est avec lui qu'il y avait deux choses. Normalement, on dit que c'était la persécution des chrétiens le pire et le plus longue durée. Donc, pendant l'époque de cet homme-là, les chrétiens étaient massacrés d'une façon qu'on n'a jamais vue, sauf, honnêtement, aujourd'hui. Et encore, hein, je ne suis pas aveugle, donc je vois que vous ne venez pas tous de Paris non plus, hein, au moins d'origine de vos parents ou vos grands-parents. Donc, il se peut, quand je parle de la persécution de l'Église, vous vous dites une de deux choses. Je connais, hein, je l'ai vécu. Ou je connais quelqu'un dans ma famille, dans mon entourage, j'ai une certaine connaissance. Donc, vous voyez, hein, quand on est persécuté, on dit toujours « Ah, la persécution, c'est génial parce que ça fait grandir l'Église. » Oui, mais pas toujours. Et d'ailleurs, en France, ce n'était pas le cas. Hein. Ça, c'est génial à dire quand on est chez soi, dans le fauteuil, avec la télé et un petit coca. Hein, ça va, hein. On prie peu parce que... Et on est peiné, hein, c'est pas juste une... Moi, je ne blague pas avec la persécution. Par contre... ça fait quand même du dégât, hein, quand on perd le boulot et après on est chassé. Et donc voilà ce qu'ils vivaient les chrétiens à ce moment-là. Et donc, Dioclétien, il a eu la très bonne idée, bon, pas vers la fin de sa vie, mais après un moment de son règne, de couper en quatre l'Empire romain. Donc il y avait Maximin, Galère et Constance Chlore. Bon. Très bien. Et là, quand j'ai dit ça, je sais, c'est un flashback. Hein. Oh là, je suis au collège, hein, je suis au lycée, c'est terrible. Donc on passe vite fait. Hein. Et Constance Chlore, il a eu un fils, Constantin. Et là, on dit, ah oui, Constantin, j'ai entendu le mot au moins une fois pendant que je dormais à l'école. Hein, mais, donc, Constantin devient un des deux des empereurs, des Césaires, à ce moment-là. Donc, on est 312. Mais il y a un autre qui s'appelle Maxence, qui est à Rome, et les deux sont les ennemis, donc qui va régner, qui va contrôler l'Empire romain. Donc, c'était, juste pour être précis, la date, le 27 octobre 313. Et le jour après, le 28, il y avait la bataille du pont de Milvius. Mais la nuit avant, Constantin, il est chez lui, il est dans sa tente ou quelque part là. Et à un moment donné, il a une vision, ou au moins ce qu'il dit. Et dans les cieux, donc c'est là que ça s'est passé, la bataille. Il voit quelque chose dans les cieux, donc quelques images de comment ça s'est passé. Il a vu ça, qui est les grosses têtes, c'est deux lettres. Le Kyro, qui en français c'est le C et le H de Christ ou Christus. Donc il dit, la nuit avant le plus grand bataille de sa vie, j'ai vu, je regardais dans les cieux, et voilà, Dieu. Bon, et à ce moment-là, on ne sait pas exactement quel Dieu il pensait, mais m'a donné une signe, le qui et le ro qui veut dire Jésus-Christ. Très bien, pourquoi pas. Mais lui, il a pris ça comme quelque chose de Dieu qui a dit, tu vas gagner la bataille. Et qui va t'aider à gagner la bataille? Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est inventé dans sa tête? Est-ce qu'il a trop mangé la nuit avant? J'ai aucune idée. Franchement, hein, j'accepte que Dieu a pu mettre ça là. Et vous allez voir, c'est un cadeau empoisonné, ce qui se passe après. Donc, ça peut être même le diable. J'ai aucune idée. Mais ce qu'il a fait après, c'est qu'il a demandé à tous ses soldats de mettre le Kyro sur le bouclier. Comme ça, avec Christ, on va gagner la bataille. Et donc, nous, on a plein de chants comme ça, hein, jusqu'à la mort, et, les chants comme ça, la chant de bataille. Mais c'est une image. Hein. J'espère après, vous n'entrez pas en action comme ça. J'espère que ça vous parle dans le sens spirituel. Mais lui, il disait, avec Jésus sur le bouclier, on va couper beaucoup de têtes. Donc, c'est là encore comment prendre tout ça. Mais en tout cas, ça a été mis sur le bouclier. Et voilà quelques images de cette fameuse bataille. Et il a gagné. Donc lui, il devient l'empereur de tout l'empire avec l'aide de Jésus, en principe. Peut-être. Mais en tout cas, il a gagné. Et donc pour lui, il a dit, ben, Jésus, il m'a donné la bataille. Donc, ça dépend, l'historien, ça dépend ce qu'on regarde comme documentaire ou ce qu'on voit comme livre, mais certains, ils disent très peu. Hein, et à ce moment-là, bouf, il est devenu chrétien, il a tout changé. J'ai des gros doutes. Hein. Par contre, ce qu'il a fait, il a ajouté Jésus dans le panier des dieux. Et Jésus, il avait une place assez essentielle dans l'Empire parce que c'est Jésus qui a donné cette victoire. Donc, 313, quelques années après, il dit la suite. Moi aussi, je suis évêque. Donc, il parle à l'Église et aux évêques, aux pasteurs, aux dirigeants de l'Église à ce moment-là. Vous, vous êtes évêque pour les choses qui sont au fond dedans de l'Église. Mais moi, Dieu m'a institué comme un évêque pour les choses du dehors. Donc, vous êtes le pasteur et les dirigeants pour les choses dans l'Église, mais moi, j'ai tout l'Empire. Hein. Et donc, il s'identifiait avec le christianisme. Donc, il y avait des choses, par exemple, il a baptisé, et on va parler de ça après quelques moments, tous les soldats. En fait, à un moment donné, il a mis un peu cette idée de christianisme dans l'Empire. Et c'est génial, sauf parce qu'il n'y a plus de persécution. Mais à ce moment-là, qui est chrétien? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on est dans l'Empire, parce qu'on est même né là-dedans, ou suis-je chrétien à cause d'une certaine décision que j'ai faite moi-même, confronté avec les vérités de la Bible? Est-ce que j'ai fait un choix avec Jésus? Donc, ça commence d'être un peu compliqué, et ça continue ensuite, ou, juste quelques exemples, hein. Donc, si vous avez fait l'école en France, franchement, vous devez vraiment connaître cet homme-là. C'est pas grave, je note. Ça c'est un zéro. Hein. Quand on fait rond comme ça, non, c'est pas grave. Non, de tout. Hein. Charlemagne, sacré Charlemagne. Cet homme-là, on a tous chanté ce chant, n'est-ce pas? Donc, Charlemagne, donc ça c'est le 25 décembre 800, où il est couronné le roi de France. Mais ce qui est vraiment intéressant, qui met la couronne sur sa tête? Léon III, le pape. Parce que Charlemagne a sauvé la vie de Léon III qui était menacé par ses ennemis, et Charlemagne entre en action. Et voilà, donc qui déclare que le roi est le roi de tout l'Empire romain de cette époque-là? Le pape. Et à ce moment-là, et même avant, et surtout après, on voit que l'Église et l'État se mêlent ensemble d'une manière assez phénoménale. Hein. Où, après, on voit donc l'Europe en 1500, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est un bazar total qui n'est pas tout à fait l'Allemagne qu'on voit aujourd'hui, mais partout, sauf l'Empire ottoman, ils sont tous catholiques. Donc, en 1500, vous êtes né à Paris, vous êtes né à Marseille, vous êtes né à Rome, vous êtes né à Londres, peu importe, vous êtes né et vous êtes catholique. Point final. Sauf juste avec une toute petite minorité des Juifs et quelques petits autres groupes, mais en principe, le moment de votre naissance, votre identité religieuse est donnée. Donc, déjà, on sait que c'est complètement, entièrement anti-biblique. Mais complètement. J'ai 3 enfants, ils sont tous, comme j'ai dit, ils sont nés à La Rochelle. Et le jour de leur naissance, ils sont nés, ils ont eu la nationalité américaine parce qu'ils ont 2 parents américains. Et ils n'étaient pas encore français à ce moment-là. À cause de Charles Pasqua, et je n'entre pas du tout dans ce débat, mais il a fallu attendre quelques années après. Et là, aujourd'hui, donc, ils ont la nationalité française. Mais au niveau de la foi, quand on a voulu expliquer à nos enfants un peu la condition d'un être humain, c'est-à-dire d'expliquer cette idée de la nature pécheresse. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous êtes tous nés comme la poubelle. Donc déjà, juste pour faire vraiment une bonne image de soi, hein, vous êtes les poubelles, mes enfants. Donc, c'est excellent. Mais en fait, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec la poubelle? Donc, je ne sais pas chez vous, mais ma femme, elle est un peu maniaque, donc elle est toujours en train de nettoyer la poubelle. Mais on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est sale. Et j'ai dit, mes enfants, mais vous voyez, nous, on est toujours en train d'essayer de te nettoyer. Hein. Pas de gros mots, pas de jalousie, pas de bagarre. Mais on sait ce qu'il y a dedans. Et c'est là où Jésus doit changer. Et c'est là où Jésus doit transformer les choses. Après, vous mettez votre foi en Jésus. Et donc, le gros problème, c'est que moi, avec mes 3 enfants, ils sont nés pécheurs. Et là, on n'a jamais, jamais dû enseigner le mal. Ça, c'est naturel. Hein. Dès le début, hein, il n'y avait aucun problème. Mais le problème, c'est que quand on est né avec une identité d'une foi, vous êtes né en France, 1503, vous êtes chrétien catholique. Mais chrétien, vous êtes déjà bien avec Dieu. Vous êtes déjà là-dedans. Et c'est complètement faux, mais ça donne après beaucoup de fausses espérances. Et donc, c'était ça la condition ici en Europe. Sauf, donc, j'ai oublié. Donc, pour aller au ciel, donc, bon, Google, c'est génial. C-I-E-L. Clic, image, OK, je prends le premier. Il faut aller au ciel. Église, bon, église, voilà. En 1500 et quelques. On est né. Donc, vous voyez, ce qui est un peu trompeur avec cette photo, c'est bon. Et j'ai dit, j'allais vous parler du baptême. c'est pas le baptême là. Ce mot veut dire une chose, hein, et qu'une chose, plonger. Donc là, on a fait, soit on a aspergé l'enfant, ou sinon, moi, pour moi, j'appelle, on a mouillé l'enfant. Et si on veut mouiller l'enfant, très bien, mais il est mouillé, point final, il n'y a rien de plus que ça. Mais à ce moment-là, de quelque part en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On a confirmé déjà son identité. Parce que l'instant même de la naissance, on est dans un pays, un continent où, comme ça, on est catholique. Tout à fait, franchement, hein, si je ne m'abuse pas, je crois, la plupart de l'Afrique du Nord, c'est comme ça, sauf, ce n'est pas une question d'être catholique, on est musulman. Donc, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, tous les enfants nés en Algérie ou en Tunisie, normalement, l'identité est instantanément donnée musulman. Je crois, hein, c'est la religion de l'État. Mais là, c'est sûr et certain, le moment de la naissance, on est donné une identité. Mais encore, il y avait quand même une exception française qui a été la même chose, mais encore plus. Donc, à ce moment-là, donc on est début 16e siècle, 1500, le roi était François Ier, qui est né à, il est né à Cognac. Donc, ça, juste la prochaine fois, vous êtes à Cognac, hein, ça, ah, il est né ici. Et aussi un détail, mais quand même, on voit, l'histoire donne certaines images. Hein, jamais devant lui, mais derrière son dos, il s'appelait le nez. Et il ne s'est trompé pas. Hein. Donc, François Ier est le roi de France. Il est le roi aussi de ce qu'on appelle le début de la Renaissance, et ici en France. Et François Ier, c'est un roi qui a beaucoup, beaucoup aimé le pouvoir. Léon X, c'est le pape. Et lui, il aime beaucoup l'argent. Donc, on va parler de lui après. Léon X, c'est un sacré cas. Encore, si vous tapez Léon X sur Google, souvent, les sites, ils sont là, c'est des sites, les 10 meilleurs papes de l'histoire. Et il est toujours 3 ou 4. Donc, il n'est pas encore numéro 1, mais bon, il a pas mal fait dans sa vie. Donc, un amour de pouvoir. Encore, qui a fait l'école en France? Bon, d'accord, hein, c'est votre moment de briller. Hein, avec tous nous qui sommes un peu moins éduqués, moi je n'ai pas fait l'école en France, donc il y a certains comme moi. 1515, la bataille de... Ah, voilà, une grosse tête. Cette fameuse bataille de... On m'a dit, même si c'est l'école élémentaire, on apprend cette bataille, hein, normalement, hein. Mais bon, peut-être que c'était la seule journée de toute votre vie où vous avez raté l'école. Hein. Petit rhume, ou peut-être. Ou encore, peut-être que vous étiez endormi à ce moment-là. Je ne juge pas. Donc, il gagne cette bataille, mais c'est juste symbolique de son amour. Et son amour, c'était le pouvoir. Il aimait tout gérer. Léon X aimait l'argent. Voilà pourquoi cette photo. Ben, tout le monde savait qu'il aimait l'argent. Et donc, le roi de Portugal a donné à Léon X un éléphant. Et donc, il se promenait au Vatican presque chaque jour avec son éléphant. Donc, il est là dans son appartement au Vatican. Il dit, ben, j'ai besoin du pain. Hein. Ah ben, donne-moi l'éléphant. Donc, il monte sur son éléphant. Il se promène pour chercher son pain, pour voir. Et en fait, c'était juste symbolique de sa vie. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, c'était le luxe, les fêtes, les richesses. Et dans la deuxième et troisième fois, je vous présente ces choses-là, on va parler beaucoup plus de Martin Luther. Et Luther aussi, il est entré en combat avec le pape-là. Et ce pape-là, tout ce qu'il faisait, c'était juste pour montrer ses richesses. Et donc, entre les deux, entre Léon X et François Ier, ils ont fait un concordat, un document, qui s'appelait le Concordat de Bologne en 1516. Qui a donné en gros trois choses. Donc voilà le concordat qui est là. Si vous ne trouvez jamais une copie de ça, franchement, hein, je vous donne même 200 euros pour ça, sans aucun problème. Hein. Parce qu'après, je vais le revendre pour 2 milliards d'euros. Mais, donc si vide grenier, chez votre mamie, peu importe, hein, je suis prêt de l'acheter, mais avec cash en plus. Donc, voilà, trois choses. Il donne au roi de France un pouvoir sur l'Église. dans son royaume dont ne disposait aucun autre souverain catholique. Le pape reconnaît ainsi l'autorité du roi sur l'Église de France. Le pape reçoit cependant certaines contreparties, notamment le rétablissement des annettes, une taxe versée au pape. François Ier, il est fou du pouvoir, et le pape, qui est fou de l'argent. Et alors, à ce moment-là, qui est la tête de l'Église catholique de France? François Ier, et pas le pape. Normalement, dans tous les autres pays, le pape était au moins considéré comme la tête. Ce n'était pas toujours le modèle parfait. Il y avait certains rois qui n'aimaient pas trop le pape. Mais sur papier, la France était le seul pays où, ils disaient tous, la tête de notre Église, c'est notre roi. Donc, de quelque part, ça, on peut dire, c'est chouette. Comme ça, l'Église est beaucoup plus ancrée sur nos valeurs, sur notre langue. Mais il y avait un problème. Le problème de François Ier, c'était ses maîtresses. Donc, en plein milieu, c'est Claude de France, sa première femme. Elle s'est mariée à 14 ou 16 ans, j'oublie toujours, mais très jeune. Et elle est morte après 26 ans, après elle a donné naissance à 8 enfants, 7 ou 8, je crois 8. Donc en 10 ans, elle a donné naissance à 8 enfants et après elle est morte. Et donc ensuite, il a trouvé une autre femme. OK, mais autour d'elle, ça c'est les maîtresses reconnues publiquement. Après, il y avait beaucoup plus d'autres que ça. François Ier, un homme de pouvoir, mais aussi un homme de la débauche, franchement. Qui, ça vous choque, hein? Même aujourd'hui, hein? Qu'on entend le roi de, je sais pas quoi, hein? De la Belgique, ou qu'il a sa femme et au côté. Bon, non, c'est pas choquant, c'est pas juste, c'est pas honorable, c'est pas digne. Mais vous voyez, le problème, il n'est pas juste le roi de notre pays. Et d'ailleurs, si d'ici quelques années, on apprend que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, qu'à côté, ou que même, franchement, qu'un de ces trois ou d'autres était même homosexuel, prétendant d'être hétérosexuel, ça ne me choque pas. Bibliquement, non. Mais si c'est le pasteur de votre église, un des responsables de l'Église. Là, on dit non, et d'ailleurs, la porte. Bon, je suis un peu sévère. Hein. Repentez-vous et la porte. Mais restez assis là. Tu ne prêches plus. Hein. C'est fini. Et c'était ça le gros problème en France. Que la tête de notre Église, c'est cet homme-là. Et comme souvent le cas, hein, ce qui arrive avec la tête, ensuite, ça coule dans le cœur aussi. Donc, à ce moment-là, on a les prêtres qui font tout à fait pareil. On a les hommes de l'Église qui sont tout à fait dans le même type de débauche et d'immoralité. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir que Dieu, il a frappé. Et il a frappé très, très fort. Donc, la réponse française, c'était de dire qu'est-ce que les Français ont fait quand ils ont commencé à voir cette idée que le roi est la tête de l'Église, mais on voit cet homme et on voit ce qu'il est. Et là, il y avait plus que trois personnes, mais ce matin, je vais mettre l'accent sur trois personnes, trois Français, qui ont réagi, chacun à leur manière, mais qui ont réagi contre ces abus et ce problème d'un roi qui est aussi la tête du pays, de l'Église, mais aussi avec une vie qui ne correspond pas avec les choses de la Bible. On commence avec Marguerite d'Angoulême, qui est née à Angoulême. Ah, voilà, hein, ça, l'histoire est très facile, n'est-ce pas? Donc, elle est née à Angoulême. Ici, c'est normal. Et moi, j'habite toujours ici, hein, donc tout près de normal, mais je vous dis pourquoi. Je suis allé à Angoulême parce que je voulais voir toutes les choses de Marguerite d'Angoulême. Donc, j'amène ma femme, mes enfants, qui ne sont pas du tout contents. Hein. Mais encore, mais c'est pourquoi Angoulême, c'est 1h30 de chez moi, donc ce n'est pas aussi grave que ça. Mais... Et alors, papa, on va faire quoi? On va faire un peu de shopping ou on va manger la glace ou... Ah non, on va voir les sites de l'histoire. Oh, génial. Encore. Donc, il n'y a... Ah oui, si, si. Vous voyez la fenêtre qui est là? Elle est née là. Hein? Donc, je suis entré dans la pièce et je tremble. Je peux toucher le lit. Hein? Oh. Donc, quelqu'un normal, il ne fait jamais ça, mais vous voyez. Mais Marguerite d'Angoulême, elle est née dans ce bâtiment, dans ce château qui est aussi, qui aujourd'hui, c'est l'hôtel de ville d'Angoulême. Donc, elle est née dans une famille noble, une famille de noblesse, donc elle avait une certaine place dans sa vie. Donc, elle était assez exceptionnelle comme jeune fille. Donc voilà, elle joue l'échec, mais ça, c'est la seule image que j'ai trouvée pour montrer sa grosse tête. Mais quand j'ai dit sa grosse tête, elle parlait au moins 5 ou 6 langues. Elle était bien éduquée, elle a fait jusqu'au notre équivalent du lycée, donc elle était vraiment bien éduquée comme une jeune fille. Et donc, je vois les femmes, principalement, donc, je suis désolé, hein, mais les femmes, je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé dans l'histoire, mais à ce moment-là, vous êtes une femme, donc vous êtes bonne pour 2 choses. Et c'est aussi la cuisine et les enfants. Donc, et d'ailleurs, c'est un péché. Cette mentalité-là, c'est un péché. Et donc, mais elle, à cause de, bon, surtout à cause de ses parents, surtout sa maman, mais aussi un peu son entourage, elle a vécu autre chose. Et ce qu'elle a vécu, c'était vraiment une vie exceptionnelle où elle était bien éduquée, elle était respectée, ce qui n'était pas tout à fait toujours le cas à cette époque-là. Donc, elle grandit et elle est la sœur de François Ier. Ah, ça, c'est pas mal, hein? Quand son frère est le roi, on peut avoir certains avantages dans la vie. Et donc, elle, une jeune fille bien éduquée, mais avec vraiment un esprit brillant, hein, mais vraiment, elle cherchait les choses. Elle a commencé à voir qu'il y avait des choses qui se faisaient. Donc, son cas, elle, vraiment, quand elle est entrée en action, c'est même après, un peu après Martin Luther. Mais c'est aussi avant ce moment-là, elle a commencé à voir qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas dans l'Église catholique, dont son propre frère. Et si jamais on se connaît, souvent c'est dans la famille. Hein. Dans un sens, moi, j'ai pensé à amener ma femme et mes 2 filles ici, mais bon, 4h10 du matin, elles ont dit non merci. Hein. Mais si je demande ma femme et mes filles de chanter ma gloire, c'est possible. Ben, papa, il fait ceci, mon mari, il fait cela. Mais aussi, si je dis aussi à ma famille, tu peux raconter 2-3 bêtises, il y a 2-3 millions, la liste est là. Hein. Et dans la famille, on sait. Hein. On cache beaucoup plus difficilement les choses devant la famille qu'en dehors de la maison. Hein. Donc, elle savait. Elle connaissait son frère. Donc, elle a eu un certain respect. Mais beaucoup, elle aimait son frère. Mais elle savait ce qu'il était. Donc, il y avait Marguerite qui était là dans sa vie, et aussi un prêtre qui s'appelait Guillaume Brissonnet. Donc, Marguerite va entrer en contact avec Brissonnet. Donc, Guillaume Brissonnet, il est d'abord le curé de l'église Saint-Germain-des-Prés sur la ligne 4, donc ici à Paris. Donc, si vous ne connaissez pas encore l'église, au moins vous connaissez l'arrêt du métro, normalement, parce que la ligne 4, c'est souvent pris, hein, ça, c'est une ligne assez fréquentée. Donc, là, il est ici, dans cette église. Et lui aussi, il commence à voir certains abus, certains problèmes qui sont là dans l'église. Et donc, il n'est pas juste dans l'église, mais à l'époque, il y avait aussi un abbé qui était là, à Paris. Donc, en fait, ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment l'église, l'édifice. Mais à côté, en fait, il y a 2-3 endroits où on peut voir certains morceaux qui restent. Quelques murs, quelques vitres, comme ça. Mais à ce moment-là, donc, l'abbé qui est là, c'était dire qu'il y avait aussi un endroit avec des moines, avec des bonnes sœurs, mais aussi une école. Donc, en fait, donc, une fac de théologie, où il donnait certaines éducations aux prêtres. Et Brissonnet, donc, il était très impliqué dans l'enseignement des prêtres, dans la gestion de l'Église, pas juste ici à Paris, mais aussi partout en France. Donc, lui aussi, il voyait ces abus. Et ensuite, il y avait une troisième personne, Jacques Lefebvre d'Étaples, qui est né à Étaples. Donc, voilà. Donc, Jacques, il est né là-bas. Son papa travaillait aussi pour l'Église, mais il n'était pas prêtre, parce que c'est son papa. Sauf, encore là, normalement, un prêtre ne se marie pas. Mais le nombre de papes et ensuite des cardinaux et des prêtres qui avaient des enfants, c'était hallucinant. À tel point, il y avait un abus dans l'Église catholique à ce moment-là. Je fais une petite parenthèse, d'accord ? Je ne suis pas ni de nature ni de pensée anti-catholique, d'accord ? Ce n'est pas le but de ma vie. Par contre, autant que j'aime mes amis catholiques, et j'en ai quelques-uns, hein, même plus que ça, hein, je suis anti l'enseignement, la doctrine catholique. Et là, on va voir, moi je vais vous montrer ce qui s'est passé entre l'Église catholique et ceux qui cherchaient de réformer, dont la réforme. Et je dis ça simplement parce que jusqu'ici, je n'étais pas trop pro-catholique dans mes enseignements, parce qu'il y avait de gros problèmes. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est aussi Marguerite d'Angoulême, Guillaume Brissonnet, Jacques Lefebvre d'Étaples et beaucoup d'autres. Et tout à l'heure, Martin Luther, ils ont vu ces problèmes dans l'Église catholique. Et le gros problème, c'est que l'Église catholique, à ce moment-là, ne suivait pas les enseignements de la Bible. D'accord ? Mais nous aussi, il faut qu'on fasse très attention, qu'on ne s'écarte jamais de ce qui est écrit dans ce livre. Ici, c'est la parole de Dieu. Et le problème, il s'écartait de ses enseignements. Donc, Jacques Lefebvre d'Étaples, il vient à Paris pour faire son éducation, pour faire ses études. Et donc, il a fait ses études avec l'image suivante. Et donc, accrochez-vous. Hein. C'est pas trop loin de l'église Notre-Dame de Paris. Il a fait ses études dans le Paradis latin. Et je blague. Ça, c'est un cabaret. Donc, une belle journée de ma vie. J'ai regardé à gauche. J'ai regardé à droite. Non, il n'y a personne de mon église. Donc, je marche devant. Je commence à prendre les photos. Mais après, dans le grand journal de Paris, le Parisien, Pasteur Pervers qui prend les photos devant le cabaret. Donc, j'étais là juste 5 secondes. Je prends plein de photos. Et après, mais en fait, il a fait ses études dans le bâtiment qui aujourd'hui est le Paradis latin. Donc, si ça vous intéresse de voir ce bâtiment, les garçons, il faut aller très vite. Vous prenez vos photos et après, vous partez. Ce n'est pas un lieu extrêmement fréquentable pour les chrétiens. Mais devant ce bâtiment faisait partie du collège du cardinal Lemoine, qui est normalement considéré comme le plus vieille fac de Paris ou de la France. Donc, il vient ici, il fait ses études et il constate tout de suite que c'est un homme brillant. Vraiment un homme qui maîtrise tous les sujets. Et voilà, donc il avance très bien dans ses études jusqu'à un tel point où il cherche un grec à Paris, Georges, et je suis terrible avec les noms aussi en anglais qu'en français, et le grec, Hermonime ou quelque chose comme ça. Donc, Georges, et il va être connu comme Georges après. Georges était le seul qui donnait des cours de grec à Paris à ce moment-là. Devinez le livre, le cahier d'études qu'il a pris, le livre qu'il a pris pour enseigner le grec. Le Nouveau Testament. Et donc, Jacques Lefebvre d'Étaples, qui était déjà un homme de l'Église, hein, il n'était pas contre l'Église, contre Dieu, mais il a commencé d'apprendre le grec avec le Nouveau Testament. Et en faisant cette étude-là, et ensuite, en faisant d'autres études de la Bible, il y avait deux choses. D'abord, il était engagé par Guillaume Brissonnet d'enseigner les cours des langues et aussi de théologie à l'abbé là, de Saint-Germain-des-Prés. Et aussi, il a découvert le livre de Romains. Et voilà, donc il enseignait dans cette école-là. Juste à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés, si je me souviens bien, c'est la rue de l'abbé. Dans le magasin, c'est donc le numéro 6 dans le magasin Rue Belli. Vous pouvez entrer et là, il reste toujours un morceau de mur de l'abbé. Et c'est indiqué qu'ici, il y avait l'abbé où il y avait des enseignements. Donc, je suis entré dans le magasin. La dame m'a dit, je peux vous aider, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais voir le mur. Et là, elle a frotté sa tête comme ça. Ah ben encore, vous aimez l'histoire, c'est ça? Ben oui, hein, parce qu'il n'y avait aucun intérêt pour moi d'acheter des trucs dans le magasin. Donc elle a dit, en fait, ils sont obligés d'accepter les fous comme moi et ils paient un peu moins au niveau de la location chaque mois. Donc, mais elle m'a dit, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui entrent pour voir ça et pas trop d'achats qui sont faits après. Donc bon. Et dans le bâtiment qui était là, l'orfèvre d'étape a commencé d'enseigner aussi la Bible que d'autres choses. Et à un moment donné, il commence à faire les études des écrits de saint Paul. Et là, après, il va écrire un commentaire. Donc, commentaire sur saint Paul avec une nouvelle traduction latine. Paris 1512. Et en fait, en latin, simplement parce que c'était la langue pour les grosses têtes. Et comme ça, il écrit ça en Paris et à Rome et à Berlin et à Londres. Ils sont capables à lire ce qui est écrit. Donc, c'est vraiment la langue de ceux qui travaillaient aussi l'histoire que d'autres écrits. Et dans ce livre, il écrit la suite. C'est Dieu qui nous donne, par le moyen de la foi, la justice qui, par pure grâce, justifie pour la vie éternelle. Mes amis, quand il a écrit ça en 1512, ça a été la première fois depuis des siècles qu'en France et qu'en Europe, quelqu'un a écrit les choses comme ça, à ma connaissance. Donc, il y avait toujours une église fidèle. Là, on peut tracer, il y avait des chrétiens qui restaient fidèles, mais dans les petits groupes, hein, les Waldensiennes et d'autres comme ça. Par contre, il n'y avait pas énormément d'écrits, et surtout un livre qui était publié avec la possibilité de toucher plusieurs personnes en Europe. Mais surtout, en 1512, un Français, ici en France, il a écrit l'Évangile de Jésus dans un commentaire. Ce qui n'était pas la position officielle de l'Église à ce moment-là, et ce qui n'était pas enseigné nulle part. En 1512, et on ne sait pas exactement à quel moment ces choses sont devenues une réalité pour Jacques Lefebvre d'Étaples, donc je ne peux pas vous dire précisément à quel jour, à quelle date il est sauvé, il est devenu chrétien, mais là, sa vie à ce moment-là était basée sur ce principe. On est justifié, c'est-à-dire qu'on est rendu pur, juste, sans péché, uniquement par le moyen de la foi en Jésus. Et ça, c'est une pure grâce. Et donc, des années après, il y avait un professeur français qui a écrit la suite. Donc, vous voyez, c'est même 1900. En 1512 déjà, 5 ans avant les thèses de Wittenberg, Lefebvre d'Étaples avait publié son commentaire sur les épîtres de Paul, un livre qu'on peut déjà appeler protestant, le premier livre protestant. De fait, on y trouve affirmé, avec une netteté qui ne laisse rien à désirer, les deux grands principes qui seront les principes fondamentaux de la réforme, l'autorité souveraine des Écritures et la justification par la foi. Et donc, avec raison, on cite toujours 1517 et Luther pour le début de la réforme. Mais, et je vais toucher légèrement, mais je vous cite déjà, Martin Luther, quand il a voulu faire un commentaire sur le livre de Romains, et lui, quand il cherchait cette question, comment nous sommes sauvés, il a pris ce commentaire. Et d'ailleurs, un ami m'a dit une fois, un jour il faut que je vérifie très précisément le nombre, mais un ami m'a raconté que lui, il a lu que Luther citait Lefebvre d'Étaples 40 fois dans ses écrits. En tout cas, ce qui est sûr et certain, Luther, il connaissait le livre de Jacques Lefebvre. Et en plus, il était très convaincu de ce qui est écrit là. Un petit bonhomme d'Étaples dans le nord de la France. En 1512, Dieu change son cœur. Et il écrit dans un livre, nous sommes justifiés par la foi en Jésus seul. C'est la seule et unique façon d'aller au ciel, d'avoir la paix avec Dieu, d'être chrétien. Et Martin Luther, il découvre ce commentaire. Il y avait d'autres écrits aussi qui poussaient Luther vers cette idée, mais il était beaucoup, beaucoup influencé par Jacques Lefebvre d'Étaples. Et alors, comment notre petit bonhomme Jacques Lefebvre d'Étaples, comment lui-même il est devenu chrétien? Un beau jour, il a eu envie d'étudier le grec. Et notre fameux Georges, il est presque impossible de penser qu'il était chrétien, et aucune preuve. Donc, il avait juste la copie du Nouveau Testament grec. S'il a pu avoir d'autres livres, donc à ce moment-là, Lefebvre d'Étaples, il allait rater l'Évangile. Sauf, avec le plan de Dieu, on ne rate jamais rien. Il prend la Bible, Rien d'autre que notre Bible, la même chose qu'on a aujourd'hui. Il a eu les mêmes mots, les mêmes pensées, la même chose à son époque-là. Après, Guillaume Brissonnet, il était muté, si on veut, à la ville de Meaux. Donc, vous connaissez la ville de Meaux ? Donc, c'est à l'est, après, un peu après Roissy. Il y a deux choses qui comptent pour moi avec Meaux. Hein. La réforme et après le fromage, hein, le brie de Meaux. C'est pour ça que je suis venu en France. Non, ce n'est pas juste pour ça. Mais, et donc, voilà, Guillaume Brissonnet, il devient la tête, et c'est lui l'évêque de toute la paroisse de Meaux. Donc, il amène le Fèvre d'Étaples avec lui. Mais à ce moment-là, donc on est 1919-20, quelque part là. Il entre dans la ville de Meaux. Et dans le palais épiscopal, qui est toujours là, je suis allé, j'ai pris la photo, le bâtiment est toujours là. Avec Jacques Lefebvre d'Étaples, ils ont eu l'idée de commencer, mes mots à moi, hein, nos mots d'aujourd'hui, un institut biblique, une fac de théologie. Parce que, en fait, avec les écrits de Lefebvre d'Étaples, après avec les écrits de Martin Luther, en France, en Allemagne, en Angleterre, partout en Europe, les gens commençaient à voir la vérité et la réalité de Dieu, l'Évangile. Et donc, ils avaient vraiment envie de former les prédicateurs, les pasteurs, et ensuite de les envoyer comme missionnaires. Donc, dans la ville de Meaux, ils ont carrément commencé une école. Juste pour l'histoire, ça s'appelle un cénacle. Donc, c'est le cénacle de Meaux qui a commencé là. Mais c'est vraiment juste l'idée que chaque jour, ils ont fait les études de la Bible. Parmi les étudiants les plus connus, c'est Guillaume Farel, qui après, il est allé en Suisse. Il a beaucoup réformé l'Église en Suisse. Et donc, dans cette ville, dans cette église, ils ont aussi commencé tous les dimanches à prêcher. Donc, ça, c'est la grande chaire de l'église de Meaux. Et il y avait des vraies prédications de la Bible, mais les prédications évangéliques, c'est-à-dire basées sur l'Évangile. Donc, dans l'église, les gens, ils ont commencé à venir à Christ. Il y a un moment donné, il y a même un livre qui est écrit, le titre est « Les 14 martyrs de Meaux ». Et ça fait vingtaine d'années après. Il y avait tellement de personnes qui sont devenues chrétiens, ils ont fondé une église, ils ont commencé à prêcher, et bon voilà, les autorités, qui l'église et l'État et l'église. Hein. Donc c'est la police, mais c'est la police catholique, parce qu'en fait c'est la même chose. Ils sont entrés dans le bâtiment, et après ils ont mis à mort 14 personnes qui étaient à la tête de cette église. Et dans le marché, et c'est toujours là, la place est toujours là, ils ont mis ces 14 hommes sur les poteaux. Et en fait, ils ont attaché la tête et le cœur comme ça pour chacun de se voir, en pensant que ça allait être vraiment écrasant de voir ton ami qui allait mourir pour Christ, qui allait être brûlé vif. Et il y avait l'effet, c'était l'inverse. Ils s'étaient encouragés mutuellement. Je sais, tu vas brûler, mais tiens fort, va jusqu'au bout. Ils ont cité les versets, ils ont chanté les cantiques. Et 14 personnes ont perdu leur vie. Mais à cause de ça, ou grâce à ça, en fait, Dieu, il a commencé de sauver davantage de personnes autour de Meaux, et ensuite la réforme a touché toute la France. Mais tout ça, et ensuite, juste donc dans le sous-sol, dans la crypte de l'église, là, ils ont aussi commencé d'imprimer les Bibles. Parce que Lefebvre d'Étaples, il a compris, si on veut toucher les gens avec la parole, avec l'Évangile, il faut la parole de Dieu. Donc, ils ont commencé à imprimer la Bible en français pour la première fois. Donc, voilà. Cette Bible était imprimée dans la crypte de l'église là-bas. Et donc, aussi avec le début de la vie de Jacques Lefebvre d'Étaples, la vie chrétienne, après avec cette école et ensuite un peu le début de la réforme ici en France, on voit toujours la même chose. La Bible et la Bible seule. Et là, donc, on a notre première sola, sola scriptura, la Bible seule. Et le verset qui correspond avec ça, c'est, bon, de Timothée 3,16, c'est assez évident. Hein. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et donc, je garde aussi le temps parce que j'ai encore une petite histoire à la fin de ce qu'on va voir dans la Bible. Je ne suis pas venu ce matin juste pour prêcher, hein, ce n'est pas juste un moment de prédication. C'est plutôt juste une petite méditation, mais j'ai envie de voir rapidement ces versets ici, ce verset, mais aussi le contexte, parce qu'en fait, je n'aime pas juste l'idée de vous donner l'histoire. Voilà ce qui s'est passé, 1510, blablabla, 1512, blablabla. Parce que honnêtement, ça, c'est l'école. J'ai parlé et je parle toujours avec mes enfants qui, tous les trois, ont fait toute leur vie scolaire en France. Donc, je demande toujours, mais t'as eu un cours d'histoire? C'est fascinant, n'est-ce pas? Quoi? Quoi? Tu parles de quoi? Fascinante, l'histoire? Pas à mon école, hein? Et voilà en gros ce que j'entends. 1213, il y avait un truc. 1214, un autre truc. Et encore 1215, trois trucs. Ah, ça m'énerve, mais bon. Et je sais, peut-être vous n'avez pas eu un prof d'histoire, mais je crois que la plupart sont comme ça. Mais pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est du vrai, c'est du réel. Mais surtout, c'est basé sur la Bible, ces histoires-là. Donc, si je vous raconte la bataille de Waterloo, 1518, Napoléon, oui, ça, je peux vous donner ça très blasé. Mais là, je ne peux pas. Parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est la différence entre une vie éternelle avec Dieu et une vie éternelle en enfer. C'est une question spirituelle ici. Et ça, on voit dans cette histoire, ça a été basé sur la Bible. Donc, qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Donc, dans ce chapitre, donc dans 2 Timothée 3, ça commence, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et on a certaines consignes, on a certains enseignements, comment vivre ces choses compliquées. » Mais à la fin, l'Esprit de Dieu qui dirige Paul à écrire ces choses-là, il dirige Paul à dire la suite. Et la Bible, juste que tu saches, Timothée, mon ami, mon enfant en Christ, cette parole ici, la Bible, elle est inspirée de Dieu. Et là, déjà, on a un souci. Parce que si je vous amène tous à La Rochelle, et là, on est devant la mer. Donc, ici à Paris, la mer, c'est de l'eau. Et c'est vaste, et c'est bleu. Et souvent, avec la mer, on a le soleil. Donc, pour les Parisiens, le soleil. C'est un truc jaune dans les cieux qui se brille de temps en temps. Le soleil, pour les Parisiens. Donc, bon. Je suis désolé, je suis de La Rochelle. Donc, ce matin, 5h30, le soleil brillait. En Chine, pas à La Rochelle, mais quelque part, ça brillait. Donc, dans mon cœur, je me suis dit, mais quelque part, c'est comme à La Rochelle aujourd'hui. Donc, je vous amène là-bas et vous dites, oh, mais ça m'inspire, oh, la plage, la mer, j'avais écrit un poème. Ou je vous amène dans les Alpes. Et ensemble, on dit, mais c'est incroyable, les Alpes avec les aigles et tout. Et ça nous inspire à faire un tableau. Et là, il y a un souci. Ce n'est pas exactement, même pas du tout, ce que ce mot veut dire avec l'apôtre Paul. Et donc, Paul est en train de lire et dit, toute la Bible est théopneustos. On dit, quoi? Mais le mot est fait avec deux choses. Théo, Dieu, pneustos, respirer, souffler. Je vais vous demander de faire quelque chose. Je vous demande de faire quelque chose réellement pour comprendre quelque chose, mais aussi pour vous aider d'être encore un peu plus réveillé jusqu'à la fin de mon discours. Mais mettez votre main comme ça. D'accord? Et vous allez répéter ce que je vais vous dire. Paul a pris un panier de poivre. Et vous sentez quoi? De l'air. Parce que, soufflez. Quand vous parlez, donc, si vous avez mangé des oignons aujourd'hui, il faut se tourner et vous dites à votre voisin, je suis profondément désolé. D'accord? Et quand on parle, ça sort. Toute la Bible souffle, sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Genèse 1, jusqu'à Apocalypse, à la fin, là, de la bouche de Dieu. Ce que la Bible dit d'elle-même. On est dans un pays libre, on est dans une église libre, pas littéralement, dans une église baptiste. On ne perd aucun bras, il n'est pas un pistolet sur la tête, vous croyez comme vous voulez, mais là, au moins, dans ce livre, c'est la chose suivante est dit. Ce livre vient de Dieu. Donc, et je vais toucher deux fois ce que je vais dire. Donc, première fois, si Dieu dit Ézéchiel 29, 9, quand vous vous levez le matin, touchez le nez. Et ensuite, Jésus répète la même chose dans Matthieu 13, 2, et ensuite Paul dans 1 Timothée 3, 19, qui n'existait pas. Mais si Dieu dit dans sa parole, chaque matin, quand vous vous levez, il faut toucher le nez. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je crois. Hein. Donc, et c'est bien que vous vous rigolez, parce que c'est ridicule ce que je dis. Mais la Bible me dit à moi, Marc, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Et là, moi, si je dis, oh Dieu, t'es sérieux? Un jour sur deux? Parce que parfois, elle est aussi énervante que moi. Hein. Je suis énervant aussi, mais non. Si la Bible dit, pardonnez-vous mutuellement les uns les autres, si la Bible dit, restez fidèles ici, faites cela, ça vient de Dieu. Donc, d'ici quelques moments, on va voir, hein, ça n'a rien à voir avec le salut. Et en même temps, quand je prends ce livre et je vois ce qui est dedans, que Dieu me demande à mettre ma confiance, ma foi en Jésus, donc c'est-à-dire littéralement l'œuvre rédemptrice de Jésus pour être sauvé, c'est Dieu qui me dit ça. Ben après, faites votre choix. Hein. Encore, hein. Aucun pasteur doit être un dictateur. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on a ce livre, ici, là-dedans, c'est la parole de Dieu. Ça vient d'un Dieu qui a créé toute la planète, le Dieu tout-puissant. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice. Ça, c'est la Bible. Et ensuite, l'apôtre Paul il dit que ce livre, cette Bible, est utile pour trois choses. La Bible est utile, donc verset 15, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, si vous avez envie d'être sauvé, d'aller au ciel, d'être un enfant de Dieu, d'être en paix avec Dieu, d'avoir la réconciliation entre vous et Dieu, c'est dans la Bible qu'on trouve ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qui arrive ni avec des rêves, ni avec une vision. C'est les choses qui sont déjà écrites dans la Bible. Donc, pour mon âme, pour l'éternité, c'est la Bible qui est utile pour me donner exactement ce qu'il faut. Ensuite, la Bible est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et là, juste parce que, bon, je veux quand même avancer. Je ne veux pas prendre toute la journée juste avec ce verset, mais je donne une image assez rapidement. Donc, l'idée d'enseigner, c'est l'idée d'aller droit. Donc, c'est-à-dire que je marche comme il faut. J'ai un enseignement. Ça me donne les informations, les consignes, comment je dois vivre. Mais parfois, j'ai du mal de rester droit. Donc, je peux aller un peu à gauche, un peu à droite. Et je ne fais pas exactement ce qu'il faut. Et la Bible me convainc de cette petite déviation. Où là, j'ai dérouté. Bon, voilà, la Bible est aussi là, hein. C'est là où on voit la Bible, c'est comme un miroir. Mince, oui, je croyais que je faisais un bien, ou même je savais que je ne faisais pas trop bien, mais la Bible me convainc, la Bible me montre. Ah non, tu t'es écarté. Ensuite, pour corriger, c'est-à-dire pour retrouver le bon chemin, qui est normalement la confession par repentance. Mais la Bible me montre comment je peux corriger là, quand j'ai dévié un peu sur la ligne droite. Et ensuite, instruire dans la justice, c'est le principe de toujours continuer. Après, je fais le petit détour, la Bible me montre comment je peux recontinuer et d'aller juste comme il faut. La Bible me montre comment je peux et je dois vivre ma vie. Autant avec la famille, les amis, dans l'église, au travail, la Bible me donne tout à fait tout ce qu'il faut pour vivre pour Christ. Et ça, c'est la troisième chose, la Bible est utile pour toute bonne œuvre. Donc, c'est-à-dire, tout ce que Dieu veut que je fasse, c'est là-dedans. Sauf, la Bible nous enseigne quoi? Mac ou PC? C'est une grande question, n'est-ce pas? Vous êtes appel ou...
Le nouveau.
Je ne sais même pas ce que j'ai acheté. Et là, on dit, mais... Quoi? Tu parles de quoi? Vous êtes Peugeot ou Renault? Vous êtes pomme ou frite, hein? Et dans tous ces détails de la vie, vous voyez, il y a énormément de choses que la Bible ne touche pas. J'ai cherché, hein. Le mot voiture n'est pas là-dedans, hein. Mais même là, par exemple, dans Colossiens, j'ai un trou là, c'est la fatigue. Il y a un verset qui dit que la paix, je crois que c'est chapitre 3, mais que la paix de Dieu règne dans votre cœur. La paix de Dieu, c'est un état de calme. C'est là où je sais vraiment, je fais ce que Dieu veut. Le problème, c'est le mot régner. Donc, ça va, je dis la même chose à chaque fois. Le cerveau de Dr. Second, Louis Second, c'était comme ça. Mon cerveau, c'est à peu près comme ça. Donc, si vous ne savez pas, c'est Louis Second qui a traduit normalement la Bible que vous possédez ou c'est pas tout. Bon, moi, j'ai Second 21, donc c'est Second plus ses amis. Hein. Mais il a traduit ce mot régner. Bon, peu importe, sauf que c'est beaucoup mieux de dire la suite. La paix de Dieu qui arbitre. C'est ça, le mot, c'est vraiment arbitrer. Lors d'un match de foot, l'arbitre, il fait quoi? Il voit quelque chose qui se passe. Trois possibilités. Rien. Non, il n'y a pas de faute. Ou sinon, carton jaune, carton rouge. Pourquoi? Parce que là, rouge, jaune, non, stop, non, il ne faut pas faire ça. Ou sinon, mais il n'y a pas de faute, continue. La paix de Dieu arbitre. La paix de Dieu me peut donner le carton rouge pour un Mac, ou un Renault, ou des frites. Et si vous avez mon âge, on ne voit que du rouge avec les frites. Mais vous voyez donc, même pour ça, même quand on ne voit ni voiture ni ordinateur dans la Bible, Dieu il a déjà donné aussi quelque chose qui gouverne dans la vie, sa paix. Donc, pour toutes les choses dans la vie, ce livre est utile. Et voilà ce qu'il a découvert Jacques Lefebvre d'Étaples, Guillaume Brissonnet et ses hommes après, ce qui était prêché en France. Donc, aussi à La Rochelle. Ça c'est La Rochelle. Ou sinon, ça s'appelle mardi ou mercredi. Chaque jour. C'est comme ça, je suis désolé. Hein. Je viens d'un endroit où on a plein de soleil et la plage, et donc je vous invite. Hein. Et j'aime beaucoup visiter Paris, juste pour quelques jours, mais après, je ne sais pas comment vous vivez ici sans le soleil. Ça. Bon. Et ok, je laisse tomber, hein, ça. C'est une mauvaise blague, et après, vous allez dire à Albert et Timothée, mais pourquoi tu as invité cet homme? Il est venu juste pour nous insulter. Génial. Hein. Donc, je suis profondément désolé. Voilà. Donc, La Rochelle, où est né un jeune homme qui s'appelait Guillaume Joubert. Guillaume Joubert n'était pas n'importe qui, dans une façon. Lui, il n'était pas grand-chose. Mais son père était l'avocat du roi François Ier. Donc, il est né dans une famille assez aisée. Hein, quand ton père représente le roi, donc La Rochelle, c'est une ville portuaire. Et donc, chaque fois qu'il y avait un bateau d'Espagne ou de Pays-Bas, de l'Angleterre, chaque bateau de l'étranger qui entrait dans les ports le vieux port de La Rochelle, c'est le papa de Brissonnet qui signait pour le roi, qui faisait des documents. Donc, il est là, et donc il passe sa vie à La Rochelle. Et donc, comme la plupart des jeunes hommes de l'époque, quand ton père fait quelque chose, ben après, tu fais la même chose. Donc, si papa, il est fermier, à 14-16 ans, je deviens fermier. Donc, le papa de Guillaume Joubert, il était avocat. Ben, Guillaume Joubert aussi, donc il est parti à Paris vers 1519, 1520, quelque part là, pour faire ses études de droit. Donc il vient ici à Paris et il découvre un message qui vient de la ville de Meaux. Des jeunes hommes, les jeunes hommes qui quittent Meaux, qui viennent à Paris pour prêcher l'évangile de Jésus. Donc, si ici vous n'avez jamais fait le moindre d'évangélisation à Paris, Saint-Denis-Paris, vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes une suite de fidèles. Hein. Ça, c'est vous. Hein. Les jeunes hommes, là, les jeunes personnes, les jeunes gens qui sont, ils ont quitté Meaux pour prêcher l'évangile à Paris. Et donc, il a entendu le message. Il se repent, il met sa foi en Jésus, il devient lui chrétien. Voilà, donc il se tourne vers Jésus, qui pose un petit problème. Guillaume Joubert était quelqu'un de très fervent. Donc lui-même aussi, il a commencé à prêcher dans les rues de Paris, et là, il prêche partout, il prêche un peu trop. Et donc, il est arrêté par les autorités. Il y avait un procès devant l'église Notre-Dame de Paris. Donc, je ne sais pas si... Donc, encore, la place de Maubert, c'est aussi un arrêt de la ligne 4, je crois, du métro. C'est quelque part là. Ce n'est pas trop loin, la place Maubert, de l'église Notre-Dame de Paris. Donc, si jamais vous avez un après-midi pour visiter Paris, ça dépend à tel point vous aimez l'histoire, mais si vous êtes touché par cette histoire, ça vaut la peine d'aller voir cet endroit-là. Parce que le 17 février 1526, Guillaume Joubert est pris devant un gros groupe de personnes, des autorités et d'autres. Ses bras sont attachés derrière son dos et lui, il est attaché à un poteau. Ensuite, il coupe sa langue. Ce qui veut dire deux choses. Il n'a pas renié sa foi et il craignait qu'il allait prêcher l'évangile de Jésus ou sinon chanter ou prier pendant qu'ils allaient brûler son cœur. Donc, il est attaché à un poteau, le feu est mis, et voilà, son corps est consommé par les flammes. Il est mort pour sa foi en Jésus. Donc, je suis allé là-bas plusieurs fois. Je suis allé juste parfois pour penser, pour prier, pour demander Dieu me donne le même courage. Mais ce qui s'est passé après est même plus touchant. Dans les petites ruelles, dans les petits cours à La Rochelle où il a grandi, les endroits où il disait, t'as entendu ce qui s'est passé avec notre petit Guillaume Joubert? Tu te souviens, le gamin qui courait par ici? Il est mort. Ah ben, il est mort, mais comment ça? Brûlé vif. Ah non, mais c'est pas possible. Attends, tu parles de Joubert, l'avocat du roi? Oui, c'est le même, c'est son fils. Et là, ici à La Rochelle, dans ces endroits, il a grandi. Dire qu'ils étaient choqués, ça va même pas assez loin. Ils étaient horrifiés de penser que un fils de la ville, un gamin connu, a donné sa vie comme ça, mais surtout, il demandait la question suivante. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a tué quelqu'un? Il a fait un attentat contre le roi? Non. Apparemment, il lisait la Bible. Et c'est ça qui était le plus répandu. Parce qu'à l'époque, ils ne comprenaient pas trop cette idée de mettre sa foi en Jésus, mais surtout, ils lisaient la Bible, ce qui était condamnable à l'époque, illégal. Et ces familles-là qui ont posé ces questions-là, c'était les familles assez riches. Ils ont dit, mais nous, est-ce qu'on peut lire le même livre? Est-ce qu'on peut voir ce qui a touché Guillaume Joubert? Et je ne connais pas tous les détails, c'est un peu perdu à l'histoire, mais d'une façon ou d'autre, avec ces Bibles imprimées à mots, avec quelques copies qui ont été envoyées à La Rochelle. Et dans les sous-sols de ces maisons-là, partout là, ils ont creusé des petites chapelles dans le sous-sol des maisons. Et la nuit, quand il y avait moins de danger, les familles et d'autres sont entrés dans ces petits sous-sols, la petite chapelle qu'ils ont fait. Et ensemble, ils ont lu la Bible. Et sans pasteur, sans enseignant, sans aucune personne responsable d'église, ils sont devenus chrétiens un par un, en lisant la Bible. À un tel point, quelques années après, donc en début des années 1530, il y avait suffisamment de vrais chrétiens de la Bible. Ils ont dit au prêtre, au curé de cette église-là, c'est l'église Saint-Sauveur de La Rochelle, est-ce qu'on peut avoir l'église dans l'après-midi? On a envie d'être ensemble. Ils n'ont pas dit autre chose que ça. Le matin, ils étaient toujours à la messe, mais l'après-midi, ils sont venus ensemble. Ils ont eu un moment de lecture de la Bible, de prière, de chant, et après, quelqu'un a expliqué la Bible. Aujourd'hui, ça s'appelle un culte. Hein. Mais ils ne savaient pas. Mais ils savaient que quelque chose a changé, quelque chose était autre qu'avant. Et donc, ça a continué. Hein. Ils ont commencé de parler de leur foi, et petit à petit, il y avait des chrétiens, vraiment les chrétiens fidèles et les chrétiens bien affirmés dans la Bible. À un tel point que Henri II, qui était le fils de François Ier, il est roi de France, lui, il avait un espace de réunion, quelque chose comme ça, à Angers. Et dans les documents qui existent aujourd'hui, ils ont dit, là, à La Rochelle, il y a trop d'hérésie, il y a trop d'hérétiques. Et il faut éliminer ces personnes-là. Ils ne sont pas fidèles ni à l'Église, ni au roi. Parce que vous voyez, c'est la même chose. On est catholique, on est fidèle au royaume de la France. Et donc, il a envoyé un homme qui s'appelait Claude Donglier. Claude Donglier, c'est un lieutenant dans l'armée française. Et donc, il entre ici, à la ville de La Rochelle, ici, à la Palais de Justice, qui toujours fonctionne, hein, c'est toujours la Palais de Justice. Il a commencé, il a organisé plutôt un système d'espionnage pour trouver ces gens qui n'étaient plus fidèles ni à l'Église catholique, ni au roi. Parce qu'il lisait la Bible, il parlait de Christ. Et il a fait quelques années d'enquête, mais vraiment d'espionnage. Hein. Et là, il a trouvé les trois personnes qu'aujourd'hui, on les appelle les trois pasteurs. C'était juste les trois responsables de l'église de La Rochelle. Et quand je dis église, c'était juste les groupes ensemble qui lisaient la Bible, qui parlaient de Christ, qui étaient vraiment sauvés par la grâce de Dieu. Donc ces trois hommes-là. Et le 10 mai 1552, Claude Donglier, il a amené ces trois hommes devant cette église ici. Et ça, c'est les pavés de l'époque. C'est toujours là. Ils ont pris la première pierre là. Ils ont coupé sa langue. Ils l'ont attaché sur un poteau. Ils ont mis le feu. Il était brûlé vif. Ils ont pris le deuxième homme. Il était étranglé, mort. Ensuite, son corps était brûlé. Et le troisième homme, il était fouetté 100 fois et banni de la ville. Et il est disparu de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé avec cet homme, mais sûrement il est mort parce qu'il avait beaucoup de blessures, il n'avait aucun soin, il n'avait aucune possibilité d'avoir la nourriture, d'autres choses. Donc, Claude Donglier, après, il a mis ces trois hommes à mort. Il est rentré dans sa maison, qui est à 2 minutes à pied de l'église. Il a dit, après, il a écrit dans un journal, il a mis sa tête sur son oreiller. Il était l'homme le plus content de toute la France. Parce qu'en fait, il a fait la volonté du roi. Il allait avancer, il allait monter en grade. Il a dit, quand il a mis sa tête sur l'oreiller, il a fermé ses yeux, et là, il a vu les trois images de ces hommes, et là, il était honté, mais il était horrifié, parce qu'il voyait trois visages de calme, de paix, de joie. Et il n'a rien compris. Il a dit, pendant presque une semaine, il ne dormait pas, parce qu'il était sans cesse terrifié, honté par ces images. Il tombait en sommeil à 3h du matin et à 5h du matin, il se réveillait avec un cauchemar, encore la mort de ces hommes. Et au bout d'une semaine, il a dit, il allait perdre sa tête, il ne dormait pas, il était troublé tellement. Mais bon, il connaissait d'autres personnes dans ce groupe. Donc il est parti dans la nuit, il a parlé avec un autre homme qui a expliqué l'évangile à Claude Donglier et Claude Donglier lui-même est devenu chrétien. Et donc, on ne sait pas exactement le jour de la scène où ça s'est passé, mais le dimanche après, le culte s'est fait dans sa maison. Après, il y avait le culte pendant 6 mois dans sa maison. Et après, il n'y avait plus de culte parce qu'il n'y avait plus de place. Et moi, je connais la maison, donc franchement, ça voulait dire qu'il y avait au moins 1000 chrétiens, facilement. Et en fait, ce qui s'est passé, Claude Donglier n'était pas la seule chrétien qui était touchée, seule personne, excusez-moi, qui était touché par ces martyrs. Il y avait des centaines et des milliers de personnes qui, soit ils ont vu ou ils ont entendu la façon que ces trois hommes sont morts. Et donc, Anglier aussi, il a cherché d'autres endroits pour faire ensuite les églises de maison. Là, c'est un couvent. Même aujourd'hui, dans le couvent, il y avait 40 bonnes sœurs qui étaient amenées à Christ par le prêtre qui gérait cet endroit-là. Ensuite, il y avait le culte dans ce bâtiment. Là, c'est une maison de 5 étages. Tous les dimanches, il y avait 5 églises, une église à chaque étage. D'un moment donné, il y avait 25 000 personnes qui habitaient à La Rochelle. Selon la plupart des livres d'histoire, il y avait 24 500 chrétiens, parce qu'il faut donner une petite marge pour les gens qui se disent chrétiens, mais bon, peut-être ça, c'est pas vrai, ou peut-être mon père m'oblige d'aller à l'église. Mais en gros, toute la vie de La Rochelle est devenue une ville chrétienne. Toute la ville, presque, a été sauvée par la grâce de Dieu. Ils ont carrément commencé une fac chrétienne. Là, avec l'idée d'enseigner latin, grec, hébreu, de former les jeunes comme médecins et enseignants, mais pour la gloire de Dieu, pour ensuite envoyer ces personnes comme missionnaires partout en France. Quand les gens sont devenus chrétiens, chaque famille a acheté une stèle, quelque chose comme ça. Là, c'est l'agneau de Dieu. qui prend les péchés de l'humanité, avec un verset autour qui dit « Dieu exauce les humbles ». À un moment donné, chaque maison à La Rochelle portait quelque chose comme ça. Tous les bâtiments de La Rochelle proclamaient la gloire de Dieu et la grâce de Jésus-Christ. Il y avait un temple qui était fait en plein centre-ville de La Rochelle. C'était le 8 septembre 1603. Dans le temple, il y avait place pour 2000 personnes. Le premier culte, il y avait 2000 personnes dans le bâtiment. Et ils ont compté 3000 personnes autour de ce bâtiment qui essayaient d'entendre le message. Et au même moment, il y avait 7 ou 8 autres églises protestantes huguenotes qui fonctionnaient à ce moment-là. Toute la ville est devenue une ville chrétienne, mais tous les habitants. Et donc, comment ? Une petite bande de personnes demandait de Paris une Bible. C'est ça, hein? Guillaume Joubert qui donne sa vie pour Jésus à Paris, ses voisins qui demandent la Bible, et dès que la Bible arrive, les gens, ils ont pris la Bible et ils se tournaient vers Jésus. Chers amis, aujourd'hui, on possède tous les Bibles. Les Bibles sont partout en France. Vos amis, les membres de votre famille, les collègues de travail, est-ce qu'ils ont une Bible? Est-ce qu'on pense juste simplement donner une Bible? Oui, mais tu sais, il y a d'autres méthodes, et je ne sais pas. Mais une Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu. Prions. Seigneur, on te remercie pour ces instants que tu nous donnes. Donc, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait ici en France, Seigneur, et dans le monde entier. Dirige-nous, Seigneur, dans nos pensées, dirige-nous, Seigneur, dans notre manière de partager notre foi. Mais rappelle-nous, Seigneur, sans cesse que ta parole, la Bible, Seigneur, elle vient de toi. Et donc, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Et on te remercie, Seigneur, pour ta présence et pour tes bénédictions. Amen. J'ai dépassé légèrement, donc les deux prochaines fois vont être beaucoup plus courtes, je vous promets.